beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Ba papa, ba maman, bote nabino. Zambé en pambolobino. Alors, désolé, mais c'est à peu près tout que vous allez avoir en lingala aujourd'hui. Mais matin domingue, c'est vraiment un honneur et une joie pour moi et ma chère et charmante épouse d'être encore une fois avec vous à la borne. Et ça fait chaud au cœur, mais au-delà de ces émotions, il y a une conviction qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, il va faire quelque chose au milieu de nous. Amen. Et ça, c'est pourquoi on est là. Quel moment extraordinaire de louange et d'adoration. Je crois que la chorale mérite vraiment l'applaudissement. Merci beaucoup. Ce qui est magnifique, c'est d'avoir les gens qui savent pas seulement chanter. Parce qu'au Congo, on manque pas des chanteurs. Ce pays est reconnu pour les musiciens. Mais ce qui est encore plus beau, c'est d'avoir les musiciens qui sont les vrais adorateurs. Amen. Amen, amen. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de joie. Donc, je veux remercier le pasteur Bondo et maman Gisèle aussi pour la confiance qui nous ont témoigné de nous inviter de venir et d'apporter la parole de Dieu. C'est vraiment avec un cœur reconnaissant. Donc, je pense qu'on peut aussi applaudir et remercier le Seigneur pour vos pasteurs, pour les bergers que le Seigneur vous a confiés. Et c'est vrai que mon épouse et moi, ça fait déjà 40 ans du mariage, en fait, le 15 juin de l'année passée. On a célébré ici à Kinshasa notre 40e anniversaire de mariage. Et on s'est mariés très jeune, à 18 ans en fait. Et c'est toute une histoire de la bonté de Dieu. Merci. Toute une histoire de la bonté de Dieu. Et encore, je remercie le Seigneur pour l'équipe technique aussi. C'est vraiment quelque chose de voir la main de Dieu agir pour nous diriger dans nos vies. Les pas d'un homme juste sont ordonnés de Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est un verset qui s'applique à tous les chrétiens. C'est pas seulement à tous les croyants en Dieu. Et ce que j'ai vu dans ma vie, c'est que quand on met Dieu en premier et on fait de l'Éternel nos délices, il nous donne ce que notre cœur désire. Amen. Et alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à l'âge de 17 ans et à 18 ans, on s'est mariés. On a déménagé tout de suite dans un autre état pour faire l'école biblique. Et pendant ce moment à l'école biblique, le Seigneur a commencé déjà à nous parler à 19 ans de premièrement apprendre la langue française et deuxièmement prier pour l'Afrique. Et on était tellement jeunes et ignorant, on ne savait pas que la majorité des francophones sont ici sur le continent de l'Afrique. Et plus spécifiquement, la RDC, c'est le plus grand pays francophone au monde. Et Kinshasa, c'est la première ville francophone au monde. Et c'était justement en 1987, on a eu la joie de rencontrer la fille de pasteur Jacques Verneau et c'est elle qui nous a parlé justement de l'église La Borne en 1987. Et on a fait la connexion entre la langue française et l'Afrique francophone. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a eu la joie et l'honneur de œuvrer en France, au Canada, de commencer les écoles bibliques avec notre équipe dans 5 pays sur 3 continents. Et on vient de lancer il y a 5 ans. Déjà, on a fêté 5 ans déjà ici à Kinshasa. Et Naza Congolais. Et voilà. La seule chose qui est difficile pour nous ici à Kinshasa, c'est que Naza Coco aussi, maman Tania et moi, nous avons 2 petites filles et les petites filles ne comprennent pas pourquoi grand-papa et grand-maman sont si loin, mais le Seigneur nous fait grâce. Amen. Alléluia. Mais ce matin, j'espère que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. Est-ce que vous avez une Bible avec vous ce matin? Donc, montrez-moi votre Bible. Je crois que, dans la mesure du possible, venez toujours à l'église avec une Bible, soit en papier ou au moins dans votre téléphone intelligent, sur votre tablette. Mais nous croyons que cette parole est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? et on va recevoir les choses qui vont nous changer et nous transformer aujourd'hui, n'est-ce pas? Et alors, j'espère que vous n'êtes pas venu à l'église ce matin pour écouter juste un homme, un pasteur, un prédicateur, mais que vous êtes venu avec les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit à l'église. Parce que l'Esprit parle, mais nous avons besoin d'écouter. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un message, vraiment un oracle de Dieu pour l'église, mais spécifiquement pour ce matin à l'église de la Borne, je crois vraiment qu'il y a un message que le Seigneur veut inculquer dans notre cœur. Pas juste communiquer avec le cerveau, mais inculquer dans votre esprit pour que vous puissiez avoir une révélation. Est-ce qu'on peut dire révélation? Et en fait, justement, le titre de ce message ce matin, c'est « Victime ou vainqueur ?» Comment marcher dans la révélation de votre union avec le Christ? Et vous savez que Jésus a fait beaucoup de promesses. Il a dit à ses disciples beaucoup de bonnes choses, mais il a aussi dit que dans ce monde, vous aurez de la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et alors, n'est-ce pas bon de savoir que le Seigneur Jésus a déjà gagné, il a déjà vaincu l'ennemi de notre âme? Amen. Et ça, c'est une réalité, une révélation que nous allons voir aujourd'hui, nous allons souligner aujourd'hui. Nous allons voir qu'est-ce que Christ a fait et quel rapport cette action a eu par rapport à nous, à notre vie, notre marche avec le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas les victimes. Il y a plein de choses qui peuvent nous troubler dans ce monde, n'est-ce pas? Le monde entier est troublé. Il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre, il y a des problèmes politiques, des problèmes économiques, il y a des problèmes de santé, il y a beaucoup de choses qui arrivent, y compris ici en RDC, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous donne des choses dans sa parole qui peuvent nous aider à faire face à ces réalités avec une révélation du fait que nous ne sommes pas des victimes, nous sommes les vainqueurs. Et en fait, nous ne sommes pas juste les vainqueurs, nous sommes les plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut dire plus que vainqueurs? Vous connaissez le principe de plus que vainqueurs, je le sais, parce que on s'en souvient très bien qu'il y a certains léopards qui ont quitté la RDC et qui sont allés sur un autre terrain au Mexique, n'est-ce pas? Ah, et sur le terrain au Mexique, ils ont remporté la victoire, n'est-ce pas? Et ce que nous avons vécu, expérimenté, moi et Mama Tania, de notre appartement, pas loin d'ici, nous avons entendu la nation exploser de joie. N'est-ce pas? On pourrait entendre des milliers de voix qui se levaient pour célébrer leur victoire, n'est-ce pas? Les gens disaient, nous avons gagné, quelle victoire pour le pays. Mais vous n'êtes pas allé au Mexique, c'est pas vous qui êtes allé faire le déplacement, c'est pas vous qui avez fait l'entraînement, c'est pas vous qui avez fait face à l'adversaire, c'est les léopards, n'est-ce pas? Mais la victoire des léopards, c'est votre victoire, n'est-ce pas? C'est notre victoire, n'est-ce pas? Nous sommes pas vainqueurs seulement, nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'il y a des champions qui ont remporté le prix pour nous. Mais vous savez que c'est bon et c'est magnifique d'avoir les léopards remporter la victoire, mais vous savez qu'il y a un certain lion, hein, de la tribu de Juda, qui a quitté les cieux, qui est venu sur le terrain et qui a vaincu l'ennemi et qui est ressuscité victorieux avec les clés de la mort et de l'enfer entre ses mains, et sa victoire est notre victoire. Alléluia. Et on peut voir en Romains chapitre 8, verset 31, on va lire plusieurs versets parce que encore, je crois que la clé de notre victoire, c'est la connaissance de la parole et l'activité de l'esprit. C'est la parole qui est énergisée par l'esprit qui va faire une différence dans notre vie et dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Et en Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Est-ce qu'on peut dire Christ est mort? Amen. Bien plus, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut dire Christ est ressuscité? Il est à la droite de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Christ est à la droite de Dieu? Et il intercède pour nous. Est-ce qu'on peut dire Christ intercède pour nous? Donc, il y a quatre choses qu'on vient d'énumérer que nous allons revisiter un peu plus tard dans le message. Ce sont les éléments clés dont vous avez besoin et moi j'ai besoin d'une révélation de ces quatre choses afin de pouvoir marcher comme un plus que vainqueur ici sur la terre. Amen. Et en Romains chapitre 8, encore, si on continue verset 35, l'apôtre Paul, en fait, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré Paul à écrire « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Donc, remarquez bien, voici le problème. Il y a, dans le corps de Christ, on a un problème d'extrême. On peut trouver une vérité et soit on peut rejeter cette vérité et on tombe dans le fossé d'un extrême. Il y a des gens qui ne croient pas que l'Esprit Saint est capable aujourd'hui d'encore faire des miracles, que les dons de l'Esprit ont cessé avec la mort des derniers apôtres, et alors, ça c'est une extrême, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres personnes qui vont trouver une vérité et ils vont aller à l'autre extrême. Ils ne vont pas équilibrer les vérités. Et là, nous voyons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais quelques-uns vont dire que si vous êtes plus que vainqueur, vous n'aurez plus de problème. Que votre vie va être toujours facile. Que vous allez toujours, en tout moment, marcher sur les nuages. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit lui-même, dans ce monde, vous aurez quoi? La tribulation. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré toutes ces choses qu'on vient de mentionner, malgré tout cela, on peut saisir la victoire qui nous appartient en Jésus-Christ et on peut vivre comme un plus que vainqueur. Amen. Et il dit ceci, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est que notre victoire est étroitement lié à notre connexion et notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus, on ne peut pas avoir la victoire. Et marcher dans la victoire ne signifie pas tout simplement de faire une prière de repentance un jour et de dire « Seigneur, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors je suis sauvé, et par la suite de continuer à mener sa vie selon son propre gré, suivant sa propre volonté, faisant les choses comme il veut, et croire que cette personne va vivre dans la victoire. Non, il faut rester attaché à Jésus-Christ. Il faut marcher dans l'union avec le Christ. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? C'est important. Et c'est ça que nous allons voir. Nous allons voir que on a mentionné les quatre choses. Que Christ est mort. Que Christ est ressuscité. Que Christ est à la droite du Père. Et que le Christ aussi, il intercède pour nous. C'est les choses que Christ lui-même, notre champion, Il a fait et il fait. Amen. Et notre victoire est en lui. Est-ce qu'on peut dire, ma victoire est en Jésus-Christ? Regardez votre voisin et dire, notre victoire est en Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de victoire. Alléluia. Et alors, en Éphésiens chapitre 1, on peut lire rapidement ce verset encore, l'apôtre Paul. Il voyait l'importance de ces choses. Il en a parlé en Romains, il en a parlé en Éphésiens, il en a parlé en Colossiens, il en a parlé en Galates. Il a souvent parlé de notre union avec le Christ, notre identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il savait que l'Église, le corps de Jésus-Christ, a besoin d'une révélation de ces réalités. Une révélation, c'est le dévoilement de quelque chose qui existe déjà, mais qui est caché de notre vue, n'est-ce pas? C'est des choses que Christ a déjà fait. Il a déjà vaincu l'ennemi. Satan est déjà vaincu, n'est-ce pas? Il a déjà désarmé les autorités, les principautés. Il vous a déjà sauvé. Il vous a déjà donné la vie. Il y a toutes sortes de choses que Christ a déjà fait, mais il se peut que vous n'avez pas encore eu une révélation. Les choses qui sont les réalités spirituelles peuvent rester cachées, même pour un chrétien, un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi en Éphésiens chapitre 1, verset 15, où on va commencer verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et donc, il va continuer. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons, est-ce qu'on peut dire nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à qui? À l'Église, qui est son corps. On voit notre union, notre unité, notre connexion qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mes frères et mes sœurs, dès que nous avons une révélation de ces réalités, on a déjà lu en chapitre 8 de Romains que Christ est mort, Christ est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Si on peut avoir la révélation de ces choses et on peut comprendre que quand Christ était là à la croix, que nous étions identifiés avec lui à la croix. Que quand Christ était enterré pendant 3 jours et quand il a repris vie, il était ressuscité et il a laissé le tombeau vide, que nous étions avec lui, ressuscités avec lui. Et que quand Christ est monté au ciel, il est dans son exaltation et il s'est assis à la droite du Père, qu'il nous a fait asseoir avec lui. Nous sommes identifiés avec Christ à la croix, dans le tombeau vide, sur le trône à la droite du Père. Et quand on peut comprendre qu'actuellement, au ciel, le Seigneur, dans son corps glorifié, il intercède pour nous, il y a une action au ciel qui fait un impact, même ici sur la terre. Amen. Et si on peut avoir cette révélation, ça va vous permettre de mener une vie comme un plus que vainqueur. Au lieu d'être victime, vous serez toujours en tout temps, en tout lieu, vous serez plus que vainqueur. Amen. Donc, j'aimerais décortiquer cela un peu avec vous. On va regarder ces quatre choses juste brièvement. Et ensuite, je vous donne, je peux pas dire un devoir, mais je vais vous donner une suggestion, un conseil de prendre votre Bible et de décortiquer ces choses chez vous, de méditer ces choses jusqu'au moment où ça devienne une révélation que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie. Amen. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est la croix. Et on va voir que nous sommes identifiés avec Christ à la croix. N'est-ce pas merveilleux que Dieu, dans son amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi la croix? C'est parce que l'homme Adam, le premier homme, premier Adam, a péché. Adam, qui avait reçu l'autorité sur la terre de dominer et de cultiver la terre, il a péché contre Dieu. Il est mort spirituellement, séparé d'avec Dieu. L'union avec Dieu a été brisée, rompue. Et alors, un homme a péché, il fallait qu'un homme paye le prix pour le péché. Le problème, c'est qu'aucun homme est digne, parce que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le bras de Dieu lui-même avait besoin d'intervenir. Et Dieu s'est fait chair. Il a, même s'il existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant un simple homme. N'est-ce pas quelque chose que Dieu est devenu un homme? Quel amour! La différence, c'est que Christ n'a jamais péché. Le sang qui coulait dans ses veines, c'était un sang précieux, qui n'était pas infecté par le péché. Donc, c'était le seul homme digne d'être notre substitut à la croix. Donc, il est allé à la croix. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché. Il a fait un échange. Il a pris mes péchés. Il a pris vos péchés. Toutes les choses que vous avez accomplies dans la pensée qui sont contre Dieu. Christ lui-même a pris cela et il a payé le prix pour vos péchés. En fait, la Bible dit qu'il n'a pas couvert ses péchés, il les a effacés. Amen. Ces péchés n'existent plus, et à cause de cela, maintenant vous avez la possibilité de devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez chapitre 2 de Éphésiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Éphésiens 2, on voit verset 1. Que vous, on peut dire nous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Est-ce qu'on peut dire autrefois? Si c'est autrefois, ce n'est plus le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, est-ce qu'on peut dire autrefois, selon les convoitises de notre chair, sans les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature. Je vous invite à souligner le mot nature. Autrefois, on avait une nature pécheresse. Autrefois, on était séparés d'avec Dieu. Mais regardons qu'est-ce qu'il dit ici. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes mort avec Christ à la croix. Quand vous étiez baptisé, selon Romains chapitre 6, vous étiez baptisé dans sa mort, identifié avec lui dans sa mort. L'apôtre Paul, celui qui persécutait l'Église, celui qui était un homme violent, un blasphémateur, un persécuteur, il a dit en Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire avec Paul, j'ai été crucifié avec Christ? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi vous êtes plus que vainqueur. Amen. Vous êtes une nouvelle création. Et quand on reconnaît, on a une révélation que l'homme que j'étais n'existe plus. Ma nature a changé. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Je suis conforme à l'image de Jésus dans mon esprit, mais maintenant, il faut que mon intelligence soit renouvelée et changée pour que mes pensées s'alignent avec cette réalité qui est à l'intérieur de mon cœur. Vous me suivez? Alléluia. Donc, la croix nous amène à la révélation de notre nouvelle identité en Christ. En Romains 6, nous voyons que nous sommes devenus une seule plante avec Jésus. Une seule plante. Christ est la tête et nous sommes le corps. Vous savez, on peut regarder mon frère ici et c'est une personne, n'est-ce pas? Sa tête est attachée à son corps et c'est une bonne chose. Il ne faut pas détacher la tête du corps. Mais même si on prendrait les cellules de ses cheveux ou les cellules de ses pieds, nous allons découvrir dans n'importe quel membre du corps, nous allons trouver le même ADN. Nous allons voir que ça vient de la même personne. Est-ce que vous savez que vous êtes une nouvelle création et que vous avez l'ADN de Dieu en vous? Alléluia! Alléluia! Donc la croix, mais la deuxième chose, c'est le tombeau. Christ est mort à la croix, il était mis dans le tombeau, mais le tombeau, c'était temporaire. Après 3 jours, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Une fois pour tout, il a vaincu la mort. Et la Bible dit clairement, si on peut continuer notre verset en Éphésiens chapitre 2, il dit ceci, verset 5. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes identifiés avec Christ à la croix. L'homme que j'étais est mort. Je suis une nouvelle création. Une seule plante avec le Seigneur. J'étais enterré avec Christ. C'est pourquoi quand on fait les baptêmes d'eau par immersion, c'est symbolique d'un enterrement. On enterre le vieux homme et la personne va sortir de ses eaux pour marcher en nouveauté de vie, n'est-ce pas? Notre identification à la croix nous amène à la prochaine étape qui est une résurrection. N'est-ce pas bon de savoir que quand Christ est mort, vous êtes mort avec lui et quand Christ est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui? Et on a besoin d'avoir une révélation que nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Et il faut marcher dans la lumière de la puissance de l'Esprit qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est magnifique? C'est que Christ a changé votre nature. Mais vous avez toujours un corps qui est infecté par le péché. Un jour, cette tension entre le déjà et pas encore va être résolue. Il y a des choses qui sont déjà accomplies en Christ, mais il y a certains éléments qui ne sont pas encore réalisés. Le corps physique, même pour un chrétien, est encore infecté par le péché. Vous avez encore les désirs dans votre chair, des fois les impulsions qui vous poussent à faire ce que votre cœur ne veut pas faire. N'est-ce pas vrai? Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit qui habite en vous vous donne la puissance de dompter les désirs de la chair et celui qui marche selon l'Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. On peut marcher comme un plus que vainqueur en Jésus-Christ avec une révélation de la présence et la puissance de la résurrection qui réside en nous. Et c'est une révélation de cette puissance qui va déclencher la puissance de cette résurrection. Regardons juste brièvement, gardez votre marque-page en Éphésiens 2, s'il vous plaît, et regardons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, alléluia. Verset 9 dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous, chrétien? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Est-ce que vous êtes prêts? Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi, on va dire ensemble, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, je vous encourage cette semaine lire Romains 6, 7 et 8 ensemble. Parce que la pensée de Romains 6, 7, 8, ça, c'est vraiment quelque chose. On voit que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec Christ. En chapitre 7, nous voyons que dans nos membres, dans notre corps, la loi du péché et de la mort est toujours en action et à l'œuvre. Et c'est pourquoi je fais les choses que je ne veux pas et je ne fais pas les choses que je veux. Qui, misérable que je suis, qui va me délivrer? Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Amen. Et ensuite, en Romains 8, il nous montre comment le même esprit qui a ressuscité Jésus, ce n'est pas un esprit semblable, c'est exactement le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, et ce même esprit qui a ressuscité Christ va vivifier même votre corps physique. C'est-à-dire que les impulsions de la chair peuvent être là, la loi du péché et de la mort, mais il y a une loi qui est plus haut, plus forte. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui va faire en sorte que même vos membres vont être vivifiés pour faire la volonté de Dieu. Vous qui êtes accro au tabac, alcool ou autre chose, vous savez quoi? La puissance de la résurrection peut vivifier votre corps pour vous délivrer de toutes ces impulsions. Amen. Je sais que le pasteur Bondo a travaillé dans l'aviation. Et l'aviation est dépendante de certaines lois, la loi de la gravité et la loi de l'aérodynamique, n'est-ce pas? La loi de la gravité nous montre qu'un avion avec 300 passagers qui est en altitude, ça va tomber par terre à cause de la loi de la gravité, à moins que les lois de l'aérodynamique ne soient appliquées. Mais quand on applique la loi des aérodynamique, le même avion qui autrefois aurait tombé à cause de la gravité va voler et ne va pas tomber. Le même chrétien qui autrefois aurait tombé, il va plus tomber quand il est en train d'activer la puissance de la résurrection qui va vivifier même son corps physique. Vous êtes avec moi? Donc on va de la croix au tombeau. Mais gloire à Dieu, après la résurrection, Christ n'a pas resté à côté du tombeau. En fait, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. C'est le lieu d'autorité, le lieu de puissance, le lieu où on a déjà lu. Il était placé au-dessus de tout nom qui peut se nommer, n'est-ce pas? Toutes les puissances, toutes les autorités, tous les pouvoirs de l'ennemi sont sous ses pieds. Amen. Donc, peu importe qu'est-ce qui vous menace aujourd'hui, que ça soit la maladie, sachez, même si les médecins ont dit, désolé, mon frère, ma sœur, vous avez un cancer. Des fois, on entend le mot cancer et on a peur, on craint. Mais est-ce que vous savez que le nom de Jésus est au-dessus du nom de cancer? Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Et la Bible dit clairement que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il était enterré, nous étions enterrés avec lui. Quand il est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui. Et quand il s'est assis, il nous a fait asseoir ensemble en lui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si la tête est assise sur le trône, je vais demander à mon frère ici, Il doit monter quelques marches. Maintenant, il est en bas. Il doit monter, il doit être exalté. Je ne sais pas si la caméra peut le voir ou non, mais il va monter en haut. La tête vient de monter. Mais quand la tête est montée en haut, le corps est monté avec lui. Il va s'asseoir. Et quand il s'assoit, la tête est assise dans la place du pouvoir et de puissance et d'exousia et d'autorité, mais le corps est assis avec lui. Amen. Donc nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas encore avec lui dans notre corps. C'est cette tension entre le déjà et pas encore. Mais la Bible dit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. La Bible ne dit pas qu'il a mis toutes choses sous son menton ou sous son nez. Les choses ne sont pas seulement sous la tête. Ses puissances, ses autorités, ses adversaires sont sous ses pieds. Les pieds se trouvent dans le corps. Même si vous êtes le plus petit membre au plus bas du corps, vous êtes quand même au-dessus de toutes les puissances, de tous les noms qui peuvent se nommer, n'est-ce pas? Alléluia. Et vous avez autorité déléguée sur ces puissances. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Donc vous savez, on a besoin de cette révélation que Christ nous a délégué son autorité. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit en Apocalypse chapitre 1 verset 17 et ça va nous amener à notre dernier point. Il dit ceci, c'est Jésus ressuscité, glorifié, qui est déjà monté au ciel, qui est vu dans la vision de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Et il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. N'est-ce pas merveilleux que notre champion a repris les clés? Dieu a donné les clés à Adam et Ève. Les clés de la terre, dominées sur la terre. Adam et Ève ont péché. Ils ont donné les clés à Satan, qui est devenu le Dieu de ce siècle. Mais Christ, qui est le second Adam, il est venu, il a écrasé la tête du serpent, il a repris les clés. Alléluia. Et on peut lire en Matthieu chapitre 16, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ces clés. En Matthieu 16, verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre et que cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Jésus dit, j'ai les clés. Mais les clés ne sont pas dans sa bouche. Il tenait les clés dans sa main. Son corps tient les clés, n'est-ce pas? Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ a reçu, et on peut en fait reculer un peu, parce qu'on a parlé de la croix, on a parlé du tombeau, on a parlé aussi du trône. Mais là, on voit que Jésus qui est sur le trône, il intercède. Il y a un ministère qui doit se passer entre le ciel et la terre. Tout le monde dit le ciel et la terre. Hein? Est-ce qu'on peut dire le ciel et la terre? Jésus a dit à ses disciples, priez que ta volonté soit faite ici sur la terre comme dans les cieux, n'est-ce pas? Donc Jésus, il est assis à la droite du Père. Nous sommes qui sommes ici encore sur la planète Terre, nous sommes assis avec lui spirituellement, mais physiquement, naturellement, nous sommes encore ici. Et nous avons quelque chose à faire. Nous devons prendre ces clés que Christ nous a confiées et on doit les utiliser. Mais pourquoi? Pas pour notre propre bien, pas pour nous enrichir. Il y a des gens qui sont égarés vraiment de la saine doctrine. Ils pensent que l'autorité du croyant et les promesses de Dieu, c'est pour leur propre enrichissement égoïste. Mais non, nous sommes une seule plante avec Jésus et nous sommes unis avec lui dans sa nature, mais nous sommes également unis avec lui dans sa mission. Est-ce qu'on peut dire « Je suis uni avec Christ dans sa mission » ? Et alors, on voit en Matthieu 28, Jésus, après sa résurrection, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir, c'est exousia, m'a été donné. » En fait, le mot « pouvoir » ici aurait dû être traduit « toute autorité ».« Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et un autre verset, Jésus a dit en Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent où? Sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut dire ensemble, nous avons les clés du royaume. Hallelujah. Donc, si vous avez les clés, il faut les utiliser. Les clés ne vont pas marcher dans n'importe quelle porte non plus. Mama Tania a les clés de notre appartement. Ça marche pas dans la porte de voisin. Beaucoup de chrétiens, ils se trompent parce qu'ils vont lire cela, dire, oh, Christ m'a donné son autorité. Oui, mais son autorité marche seulement avant d'exercer l'autorité, il faut se soumettre à son autorité. Soumettez-vous à Dieu et ensuite vous pouvez résister le diable, n'est-ce pas? On doit avoir la foi et l'assurance que quand on prie au nom de Jésus, qu'on est en train d'utiliser les clés. Tout le monde dit au nom de Jésus. Il nous a donné le droit de faire usage de son nom. Il nous a donné la procuration, n'est-ce pas merveilleux? Mais on ne peut pas demander n'importe quoi. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose qu'on a demandée. Donc, je vous encourage, mes frères et mes sœurs, de demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Montre-moi que mon identité que j'ai reçue, la nouvelle identité à la croix, montre-moi cette puissance de la résurrection qui me donne le pouvoir même de dompter les impulsions de la chair. Montre-moi, Seigneur, ma position d'autorité assis avec toi dans les lieux célestes, avec tous mes ennemis, sous mes pieds. Amen. Mais montre-moi aussi quelle mission je dois accomplir ici sur la terre. Il y a des choses que le Seigneur veut qu'on fasse avec son nom. Il faut qu'on prie. Vous savez que vous pouvez prier et changer qu'est-ce qui se passe en Iran, en Israël. Vous pouvez prier et changer ce qui se passe à Goma, à Bukavu. Vous pouvez prier au nom de Jésus. Amen. Quand vous priez selon la volonté parfaite de Dieu, quand vous voyez dans la parole qu'est-ce qu'il nous dit, et quand on est conduit par l'Esprit en accord avec sa parole, on peut prier avec ferveur et on peut prier avec efficacité. Mais les clés sont déjà à vous. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne utiliser les clés pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une clé sur leur personne ce matin? Hein? Vous avez peut-être une clé que votre propriétaire, si vous êtes en location, vous a remis une clé. La clé vous a été remise. Elle vous a autorisé pour avoir accès à votre appartement. Est-ce que vous allez cet après-midi appeler le propriétaire et dire « Bonjour papa, bonjour maman, je suis devant la porte, est-ce que vous pouvez venir ouvrir pour moi? » Qu'est-ce que le propriétaire va dire? « Mais non, je vous ai donné les clés, utilisez vos clés. » Amen. Alléluia. Donc, Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Ce matin, Seigneur, nous avons vu des choses dans ta parole qui sont destinées à nous aider, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que ces réalités ne doivent pas rester juste au niveau cérébral. Un assentiment intellectuel ne sera jamais suffisant. Il faut absolument, Seigneur, comprendre d'une manière spirituelle que nous avons été crucifiés avec toi et que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus. Il faut qu'on comprenne que nous avons été ressuscités avec toi et que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous et qu'on peut, Seigneur, à cause de cela, marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut qu'on comprenne, Seigneur, que dans notre identification, nous sommes déjà montés et tu nous as fait asseoir en toi, en Jésus-Christ, comme membre de ton corps. Nous sommes assis avec toi sur le trône et que tous les ennemis sont sous nos pieds. Et Seigneur, nous te remercions qu'avec cette révélation, nous réalisons que nous avons un travail à faire ici sur la terre. Nous sommes ton ouvrage, créé en toi pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Mais Seigneur, aide-nous à faire cela avec l'autorité que tu nous as déléguée, que tu nous as confiée, Seigneur. Tu nous as donné le droit de faire usage de ton nom. Et alors nous prenons une décision de rester branchés à toi, de rester dans ta parole, de marcher dans l'esprit et de prendre le nom de Jésus et d'aller libérer les captifs, de prendre le nom de Jésus et changer les choses, de lier les choses sur la terre qui seront liées dans les cieux, de délier les choses sur la terre qui seront déliées dans les cieux. Et nous te remercions. Est-ce qu'on peut prier ceci? Père Céleste, je te remercie. Je suis mort avec toi à la croix, enterré avec toi, ressuscité avec toi, assis avec toi à la droite du Père. Et maintenant sur la terre, j'ai le droit de prendre les clés, de faire usage de ton nom, de travailler avec toi pour faire avancer ton œuvre ici sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais donner la parole dans un instant à Pasteur Roger. Mais si vous êtes là aujourd'hui et vous n'avez pas la conviction dans votre cœur que vous êtes déjà en Jésus-Christ, toutes ces réalités qu'on vient d'énumérer, nouvelle identité, hein, nouvelle puissance, nouvelle position d'autorité, nouvelle mission avec Christ, ce n'est que... c'est seulement et uniquement pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut être en Christ? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, on va prier ce matin. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vais faire cette prière simple avec vous. Donc, faites cette prière. On va tous le faire ensemble. Mais est-ce qu'on peut prier en disant, Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Je te donne ma vie aujourd'hui et je te remercie que par la foi et par la grâce, je peux devenir uni, une seule plante avec toi au nom de Jésus. Amen, amen. Si vous avez, oui, on peut remercier le Seigneur. Je vais demander à Pasteur Roger de venir, mais c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez méditer ces choses, vous allez mettre ces choses en pratique. Mais Pasteur Roger, merci beaucoup et merci encore pour l'invitation.
Merci, est-ce qu'on peut...